Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Senna, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou encore d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous emmener découvrir les coulisses du plus grand salon français consacré au DIY, le salon Création et Savoir-Faire. À moins de 2 semaines de la tenue de l'édition 2021, c'est Vanessa Doucet, la directrice du salon, qui nous le fait découvrir ou redécouvrir. Ces derniers mois, on a cousu nos masques avec 3 fois rien, on a fait du pain, on a occupé nos enfants avec des activités créatives et on a essayé de rester zen en créant avec nos 2 mains. Le marché du DIY est donc en pleine effervescence et c'est dans ce contexte que s'ouvre la 25e édition du salon. Avec Vanessa, on a parlé de la logistique derrière la préparation d'un tel événement réunissant 200 exposants, de l'engagement éco-responsable que prend progressivement le salon, avec notamment la création d'un pôle éthique et du rôle du salon dans le soutien de la filière de l'artisanat créatif en France, notamment avec le tout nouveau village des créateurs et une nouvelle politique tarifaire. Personnellement, je suis allée aux 2 derniers CSF et j'ai adoré. C'est vraiment the place to be, si vous me passez l'expression, quand on adore les loisirs créatifs. Allez, avant de tout vous raconter, place à ma conversation avec Vanessa.
Bonjour Vanessa, je suis ravie de t'accueillir. Tu es la directrice du salon CSF. Bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Vanessa, on va parler évidemment du plus gros salon de do-it-yourself en France qui se tient à Paris. Qui donc s'appelle Création et Savoir-Faire, avec Marie-Claire Idé, et qui se tient du 17 au 21 novembre. Donc ça va être très vite, et on est, je pense, plein à être assez impatiente et impatient de venir sur le salon.
Oui, j'espère.
Donc et ben là, on est en novembre 2021, donc il n'y a pas eu d'édition 2020 à cause des raisons qu'on connaît tous. Et toutes, comment tu vois les choses sur cette édition 2021, donc la dernière ayant eu lieu il y a 2 ans quasiment pile.
Ouais, c'est fou de se dire, on a sauté une année à chaque fois, je suis là. Ouais. L'année dernière, non, il n'y a rien eu l'année dernière.
Ouais.
Écoute, ça me fait plaisir de voir que la plupart de mes exposants s'en sont bien sortis pendant cette période de confinement, parce que le DIY maintenant est rentré quasiment dans tous les foyers pendant 1 an et demi, 2 ans. Là. Alors, c'est un salon un peu particulier parce que, oui, le DIY, c'est tendance, on en voit partout. Et c'est, encore une fois, les vendeurs de machines à coudre, les marques sont en rupture de stock, ont été en rupture de stock pendant plusieurs mois. Enfin, ça, plein de gens nouveaux s'y ont mis.
Principalement sur la couture pour faire les masques et le confinement.
C'était le déclencheur. Vraiment... Et je ne sais pas si tu te souviens, mais les merceries étaient magasins de première nécessité.
C'est vrai. Pour aller acheter le fameux élastique.
Voilà. Donc, ça a permis à ces gens-là de s'en sortir. Et puis, comme on était à la maison avec des enfants, c'était un peu urgent de trouver des activités à faire à nos petits-enfants. D'ailleurs, notre newsletter du lundi, on faisait une newsletter tous les lundis, on n'a jamais eu des taux comme ça aussi importants.
D'ouverture,
de désespoir, trouvez-nous des tutos. Donc, ça, c'était une période vraiment idéal pour développer ce côté je fais moi-même chez moi, pas forcément dans l'achat, on allait fouiller dans ses placards et on allait découvrir, enfin retrouver, reprendre des tissus qu'on avait. Oui, ça commençait par la couture, mais après ça s'est développé sur plein d'autres activités. Tout ça pour te dire que le marché a priori se porte bien, sauf que il y a toujours un petit décalage entre la tendance, ce dont on parle dans les médias, et la réalité économique des entreprises qui constituent le marché. C'est un marché qui est constitué de multitudes de petites entreprises, c'est très éclaté, et qui ne s'en sont pas toutes aussi bien sorties, en tout cas. C'est ce que je peux voir, moi, sur le nombre d'exposants qu'on a cette année, parce qu'on est à peu près à moins 30%. Ouais. Et c'est une tendance sur tous les salons de la rentrée, là, pas que DIY. Oui,
d'accord. Et donc, il va y avoir combien d'exposants sur cette édition 2021?
Je pense qu'on sera aux alentours de 180, 200, au lieu des 250, tu vois.
D'accord.
260 habituels.
Donc, un salon un petit peu plus petit, mais qui va être génial pour autant. Bien sûr. Super.
D'abord, il va être génial parce que je pense que les visiteurs, ils ont enfin, de ce que je vois sur les réservations d'ateliers qui sont partis, on a déjà 1500 places d'ateliers réservées en 10 jours. Donc, c'est quand même bien. On sent un certain besoin de se retrouver, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est top. Et puis, ça a été l'occasion aussi de créer plusieurs espaces nouveaux dans le salon. Pas tant avec des gros acteurs, mais des petits acteurs, des petits créateurs. J'ai revu des tarifs, on a accompagné des artisans créateurs. Voilà. Donc, on a un pôle éthique pour la première fois avec une dizaine de marques qui vont parler de ce que c'est que les tissus bio, la laine teinte naturellement et qui vont un petit peu éduquer le visiteur à ça. On a un village créateur et c'est la première fois qu'on a des produits faits main, finis, un peu pour Noël. L'année de l'inspiration revient comme elle était avant, avec 20 vitrines sur le thème dans mon atelier. Donc ça, c'est du contenu. Et puis les ateliers, comme je te disais, qui sont toujours aussi importants, mais c'est du contenu inspirant pour les visiteurs. Et il faut que le salon ait un petit peu de magie en arrivant.
Surtout qu'on est aux abords de Noël quand on vient au salon. Voilà, forcément, il y a plein de choses pour préparer Noël. Ça participe aussi un petit peu à la magie, quoi, parce que ce serait un salon qui je sais pas, au printemps, il y aurait pas ce petit truc, je trouve.
Non, c'est vrai. C'est vrai que Noël, c'est la préparation de Noël, c'est la période la plus forte dans ce type d'activité, parce que ça va être la table, ça va être la déco de sa maison, ça va être aussi les cadeaux. On est hyper inventif, hyper créatif. Donc oui, c'est le thème. Cette période est très propice à ça. Je pense que le stand le plus beau dans ces cas-là, ça va être Marie-Claire Idée qui fait une déco qui est tout son magazine Noël, donc très cosy. On a envie de s'asseoir avec un petit chocolat chaud et pas bouger dans un salon Porte de Versailles. C'est fort.
C'est vrai. Le salon, il existe depuis combien de temps, Vanessa?
C'est la 25e édition.
Ah oui, ça fait pas autant de temps que je viens.
On a eu 2 mois pour le préparer, enfin 2 mois depuis le mois de... Oui, parce qu'on nous a annoncé l'ouverture des salons au mois de juin, juillet-août. C'est pas toujours grand-chose, surtout en août en France. Donc en fait, septembre-octobre, c'est les 2 mois pendant lesquels on a travaillé d'arrache-pied avec les équipes pour sortir le salon. Et sachant encore une fois que c'est 1 an de travail habituellement.
Oui, parce qu'en fait, même si, avec des gros guillemets, c'est la même chose toutes les ans, c'est-à-dire c'est le même fonctionnement, il y a des visites, il y a des exposants à faire venir, etc., donc avec toute la logistique, donc ça vous connaissez par cœur, mais évidemment ça reste quand même un gros travail. C'est quoi les grosses étapes de la préparation
d'un
salon?
Oui, parce qu'on recommence. Moi, je suis pas trop adepte du on a fait la même chose que l'année dernière, on recommence. Donc j'aime bien qu'on se repose les bonnes questions. Il y a toujours une enquête visiteur qui est très très important et exposant qui est important pour nous après le salon, dont il faut tirer des enseignements et surtout progresser tout le temps. Donc oui, c'est le salon, il repart quasiment. Je dirais pas de zéro, mais on repart d'une page blanche quasiment chaque année. Hein.
D'accord. Donc, c'est chouette parce que, tu sais, il y a des fois un peu le sentiment dans certains salons, alors je ne parle pas du CSF, mais des salons un peu plus régionaux ou un petit peu, tu sais, comme les marchés de Noël. Ouais. En fait, globalement, tu reviens d'une année sur l'autre et puis tu peux faire ça pendant 5 ans, 10 ans. C'est exactement les mêmes créateurs, les mêmes exposants aux mêmes endroits. Et donc, il y a ce côté un petit peu lassant. Alors, comment on fait pour se réinventer tous les ans comme ça après 25 ans de salon?
Je pense qu'on va le fêter les 25 ans plus 1 l'année prochaine.
Oui.
Comme je disais, c'est 1 an de travail et c'est beaucoup, beaucoup d'animation à mettre en place. La vente des stands, ça commence tout de suite là, 1 an avant. Mais ce n'est pas que ça, c'est toute la thématique. On se remet à plat, on se dit, OK, quels sont les événements qu'on garde, qu'on arrête? Il ne faut pas hésiter à dire, bon, bah, ça, on stoppe, ça fait très longtemps qu'on le fait, mais finalement, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas le faire évoluer différemment? Voilà, donc c'est vrai qu'on se pose avec l'équipe com et l'équipe commerciale et on se fait souvent un petit brainstorm après salon. C'est notre bilan, quoi. Pour repartir sur des bases. Alors, il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas toucher, genre l'inspiration. Ça, c'est quelque chose qui est très attendu par les visiteurs et les ateliers. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent évoluer. Par exemple, le politique dont je te parlais tout à l'heure, c'est une première. Moi, je souhaite qu'il soit décliné sur tous nos salons. Pas que dans le fil et l'aiguille. Je pense que ça peut être aussi au niveau tout ce qui est réutilisation, upcycling, la notion de d'éco-responsabilité en DIY, elle a pris une ampleur gigantesque. Donc ça, moi, j'aimerais continuer à le développer. Le village des créateurs, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de créateurs qui font des choses eux-mêmes, mais qui vendent des produits finis, et qui n'ont pas toujours leur place à Création Savoir-Faire. Ces Création Savoir-Faire, c'est vraiment un salon où il n'y a rien en produit fini. Donc là, c'était un moyen de mettre en valeur aussi ces gens-là et qui correspondent aussi à une attente de nos visiteurs. Donc, je te dis, notre enquête visiteurs et exposants nous sert de base de travail. Mmh. Après, moi, ça fait 3 ans que j'ai repris les choses. Puis, il y a eu le Covid entre-temps. Hein. Donc, les choses vont se faire petit à petit. Mais oui, on se repose les questions chaque année en fonction. On ne s'endort pas sur nos lauriers. Et puis, c'est... Les salons ont été mis à mal, hein, tu sais, pendant un an et demi. Hein, c'est un média qui souffre.
Ouais.
Donc, alors, tout le monde dit, oui, il faut aller sur le digital. Je ne vois pas comment sur du DIY, le 100% digital peut fonctionner. Nous, au contraire, il faut qu'on soit à l'inverse. Tu vois.
Oui, et puis même tous les événements professionnels auxquels on a assisté là, pendant que justement, il n'y avait pas de salon physique, bah, c'est quand même pas la même chose. Et puis, non, pour les exposants, c'est quand même... moi, en tant qu'exposant, j'adore aller sur les salons et parler avec les gens, etc. Donc, c'est quand même un rendez-vous.
Oui, ça, je pense que le digital peut nous aider. Peut nous aider et nous surtout être un formidable lien. Avant, on avait des forums, il y a très longtemps, et avant, c'était les associations dans les villes. Il n'y avait pas un village ou une ville sans association, et c'était ça notre lien. Bah, là, c'est les réseaux sociaux.
Ouais. Et le rôle de Marie-Claire Idé dans tout ça, c'est quoi? Parce que donc, c'est le salon création et savoir-faire avec Marie-Claire Idé.
Ben, c'est notre partenaire presse privilégié. D'accord. Depuis 25 ans.
D'accord.
Il se trouve que, pour la petite histoire, j'ai créé CSF. Ben, j'étais toute jeune à l'époque, hein, mais j'étais dans l'équipe, j'étais responsable commerciale et puis je l'ai dirigé pendant 2 ans à la création, les 6 premières années.
D'accord.
Et au tout démarrage, donc c'était ma boss qui avait eu l'idée, super idée, au tout démarrage, dans le comité d'orientation, comme on appelait ça à l'époque, Marie-Claire Idée était là. Donc, on a créé ce salon vraiment en s'appuyant sur la connaissance de Marie-Claire Idée du domaine du loisir créatif à l'époque. Et donc voilà, on a monté l'aventure ensemble, on a commencé ensemble.
D'accord.
Marie-Claire Idée, c'est le magazine emblématique du DIY, il n'y en a pas vraiment d'autres aussi.
Ouais, d'accord, ok. Et du coup, alors, donc la société qui organise, c'est comme Exposium, donc pour laquelle toi tu travailles. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un salon comme le CSF ou comme l'Aiguille en fait?
Alors là, on a tout réorganisé. Écoute, on doit être. Allez, 6, 7.
D'accord.
Mais bon, dans des sociétés comme ici, tu sais, t'as énormément de services transverses.
Oui.
Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas que sur création et savoir-faire.
Bien sûr.
Mais en vraiment qui ont ça en majeur importante, oui, 6 ou 7.
D'accord. Et donc, toi, tu organises quel autre salon dans l'année?
Aiguille, en fait.
D'accord.
Moi, je suis la directrice du pôle DIY au sein de cette société. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment les salons du DIY.
D'accord, ok. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu avais créé une société au départ. C'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivée à organiser des salons?
Enfin, j'étais embauchée en 80, il y a longtemps, pour créer dans l'équipe commerciale de création et savoir-faire. Pour organiser ce salon, moi je pensais qu'un salon c'était la pièce d'une maison, si tu veux, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et on a sorti un événement magique. C'est-à-dire que Création Savoir-Faire, la première année, c'était complètement fou. Quoi. C'était l'ancienne gare d'Auteuil à Paris, dans le 16e. Il y avait 150 stands. On n'avait jamais fait de salon sur ce domaine-là. Et le jour de l'ouverture, il y avait une file d'attente sur 200 mètres. C'était complètement dingue. Et c'était un salon vraiment comme on voulait, c'est-à-dire complètement magique, Noël. Voilà. Et ça fait 35 000 visiteurs la première année, 55 000 la deuxième, enfin des courbes de progression complètement folle. On est allé ensuite s'installer sur l'hippodrome d'Auteuil, sous tente, les gens qui arrivaient en voiture dans la boue. Enfin, ça a été, on a eu la neige, on a eu les grèves. Et à chaque fois, il y avait du monde. C'était assez magique. Et donc, j'ai eu la chance de participer au début de l'aventure. Et ça m'a donné le goût du salon. Et qui est un, voilà, c'est mon métier maintenant depuis, bah, ça a toujours été mon métier, hein, depuis 25 ans.
D'accord.
Et puis, quand Création et Savoir-Faire a été vendue à ce qui allait devenir comme Exposium, moi, j'ai quitté la société, j'ai monté ma propre entreprise. Donc, j'avais 30, ouais, petite trentaine, avec un associé. Et on a lancé, et on a créé Aiguille, en fait. Aiguille, en fait, c'est une partie de Création et Savoir-Faire. Pour avoir travaillé sur Création et Savoir-Faire, je savais que le textile et tout ce qui était broderie, patchwork, tricot, pouvait être un salon à...
À part entière.
À part entière, comme c'était le cas aux États-Unis ou en Angleterre où j'allais beaucoup. Voilà, donc Aiguille en fait est née. Et puis après 15 ans, j'ai été approchée, on s'est rencontrés comme Exposium. Et puis il y a une opportunité, donc j'ai vendu ma société, j'ai été embauchée comme directrice du pôle.
D'accord.
Tout en gardant mon petit salon et retrouvant création et savoir-faire que voilà, j'avais quitté.
D'accord.
Auparavant.
Bon, et l'événementiel, moi, c'est donc je travaille dans le marketing aussi, et l'événementiel, moi, c'est toujours la partie qui me fait le plus peur, et je me dis, mais parce que finalement, comme tu le dis, il peut y avoir des conditions météo horribles qui font que le salon, enfin l'événement qu'on organise est compromis. Il peut y avoir effectivement des grèves de transport, hein, parce que j'imagine que Visitora est quand même très très large, et enfin typiquement, moi, j'habite à Grenoble, et à chaque fois, c'est voilà, c'est quand même un investissement de venir. En argent, en temps, en tout ça. Donc, j'imagine que c'est d'être quand même un environnement assez stressant. Et puis, bon, évidemment, avec le Covid, on n'en parle pas, mais...
Les pires qu'on a eu, c'est les attentats avec Création et Savoir-Faire. Ah, oui. Je n'étais pas encore dans l'équipe hein, à l'époque, mais bon, j'y suis allée par... Enfin, ça a été...
Ah, c'est vrai, oui.
C'était... Je sais pas, les attentats ont lieu le...
C'était le 13 novembre, je crois.
Weekend, et le salon ouvrait le mercredi, tu vois.
Ah ouais. Oh.
Et donc, ça a été assez terrible. Non, c'est vrai qu'un salon, c'est y a plein de stress, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ça qui est intéressant quand il est bien préparé. Même si on va avoir les grèves, les gilets jaunes qu'on a connus, la neige, enfin j'en passe. Il y a toujours ça va être des variables de 20%, tu vois, on s'est arrivé à avoir moins 20% de visiteurs, mais on sort quand même un salon.
D'accord.
Et y a quand même la magie qui opère.
Oui.
Tu ouvres la porte. Alors après, moi, je fais des salons grand public, donc il y a ce côté, tu ouvres la porte le matin et puis tu vois les gens qui arrivent.
Et qui sont contents d'être là.
La satisfaction est immense. Hein. Mais j'ai connu aussi des salons que j'ai montés où tu n'avais personne à l'entrée. Ça, j'en ai fait. Hein. Des salons à Bruxelles où tu te dis, bon, on fait un super salon création et savoir-faire à l'époque, justement. Et que bah, y a personne. Ouh là 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 là. C'est dur aussi. Mais ça fait partie du job et ça...
Ouais.
Voilà, il faut rebondir après, mais c'est vrai que c'est pas évident.
Bon, donc pour toi, c'est du bon stress.
Mais c'est du bon stress parce que c'est une satisfaction que tu peux pas connaître dans d'autres métiers, c'est impossible. Et puis, tu t'ennuies jamais, t'es toujours... Ça monte, ça descend. T'as une période où là, tu vois, le stress monte quand même.
Bah oui, on est à J-15.
Le salon a lieu, ça ferme, mais là, t'as une période de décompression. Enfin, ouais. Voilà, c'est comme ça que je le vis, moi, en tout cas, et c'est... Et c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, c'est jamais le même rythme à l'année.
Ouais, bon, faut être né pour ça quand même. Moi, l'événementiel, je trouve que c'est trop. Alors, si on revient sur vraiment le cœur, il y a plusieurs cœurs dans le salon, mais donc tu nous as parlé de l'allée des créateurs, il va y avoir les ateliers, je crois que j'ai lu qu'il y avait 500 ateliers qui étaient organisés.
L'allée de l'inspiration. Les ateliers, on a 2100 places d'ateliers.
Purée. Bon, et donc il reste encore 2-3, on peut encore se...
Ouais, là on est... Oui, largement. En plus, les gens se décident plutôt plus tard que d'habitude. En plus, on les a mis en ligne plus tard. Mais là, c'est vrai qu'on a déjà vendu près de 60%, tu vois, des places.
Ah oui, d'accord.
En général, on fait en sorte qu'il en reste 10%, tu vois, avant pour que les gens qui viennent au salon...
Puissent sur place se décider.
Il y en a toujours sur place qui restent, c'est hyper important, parce qu'il y en a qui ont envie d'organiser avant.
Oui. Bon, c'est plutôt mon cas,
ouais. Mais il y en a qui seront dispo. Et puis, il y a aussi des ateliers qu'on met en place qui sont plus des animations gratuites où les gens peuvent, en passant, s'asseoir. C'est ce qu'on va faire avec la broderie, avec le patch.
Oui, une fois, oui.
Voilà, je fais ça.
J'ai participé à celui-ci.
C'est PBO, donc c'est des endroits où on s'assoit et puis il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Sur le politique aussi, il y en a pas mal. Et donc ça, c'est important d'en garder parce que sinon...
Oui, il y a une petite frustration quand on arrive dans un mince. Ah, j'aurais dû mieux m'organiser.
Ouais.
Bon, et donc l'allée de l'inspiration, donc c'est des créateurs que vous avez missionnés pour nous inspirer, c'est ça?
En fait, c'est des petites scénettes. Petite vitrine de 3 mètres sur 1,50 m. Chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'est dans mon atelier. Et l'idée, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas des exposants de pouvoir venir montrer un peu leur univers. Souvent, ce sont des influenceurs, des artistes, des créateurs qui vont faire... Alors, il y a toute une charte. Hein, c'est pas du tout...
C'est pas carte blanche.
Il y a une sélection. On est très regardant. Il faut qu'il y ait... tant de pourcents de DIY, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères.
D'accord.
Mais souvent, c'est assez magique et on reçoit, en général, ceux qui sont partant, c'est jusqu'au bout. Hein, donc,
d'accord.
Donc, c'est net, c'est pour prendre en photo, c'est pour s'inspirer, c'est pour découvrir l'univers de quelqu'un qu'on admire. Oh. C'est un salon un peu instagrammable, hein, donc il faut ce côté un peu magie. L'année dernière, on avait une super mauvaise bonne idée, on l'avait mis à l'entrée. En se disant, on va casser un peu le côté aller, on va faire plutôt une entrée waouh et on arrive, raté total. Mais où est l'allée de l'inspiration? On ne comprend pas, il faut nous la rendre. Donc on s'est dit, bon, allez, on recommence parce qu'on a toujours des bonnes idées hein, qu'on trouve super bonnes, mais parfois elles ne sont pas super bonnes. Donc là, on s'est dit, bon, ok, alors on va rebattre les cartes, on recommence notre allée de l'inspiration et puis là, du coup, on a 20 vitrines. J'ai vu les propositions, ça va être super beau. À l'entrée, c'est plutôt les pôles nouveautés, c'est-à-dire qu'on peut D'accord. découvrir les produits des exposants mis en scène par une scénographe. Où là, avant de commencer ta visite, tu vas pouvoir voir les différents produits qui sont présentés, les nouveautés des exposants.
D'accord. Alors, tu peux nous teaser quelques noms sur les créateurs qui...
On a la chance d'avoir tout prêt depuis un petit moment, parce que pour le coup, c'est le truc, on était vachement en avance.
D'accord.
Parce qu'il y en avait certains qui s'étaient engagés en 2020, donc ils ont dit est-ce qu'on peut recommencer? Donc on a dit oui, évidemment. Donc ils avaient déjà plus ou moins tout prêt.
Ouais.
Donc sur le site internet, il y a absolument la description de tous les différents artistes et influenceurs D'accord. qu'il y a, mais il y a Marion Breton, il y a Ludovic Bros. Il y a Marion Tallet, je connais leur nom, je connais pas leur nom de scène.
Oui.
Ça, je vais pas dire de bêtises parce que Bleu de Sienne, tu vois, Marion, c'est Bleu de Sienne. Il y a René Ruxicle, on a Les Tribulations de Marie, on a Telem, Rock and Paper, Idée Textile et Lolucette, En cours de création. La Papoterie, un espace très sympa qu'il y a à Paris, de céramique.
D'accord.
De la peinture. On a une brodeuse qui s'appelle Céline Dupuis qui fait des choses super jolies. On a Amélie's Workshop, Atelier La Patine. Pas que du filet de l'aiguille, encore une fois, ça aussi, ça fait partie de la prérogative de cet espace. C'est d'avoir vraiment toutes les activités représentées. The Mother of Two, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, donc encore plein de belles, belles créatrices, belles, beaux créateurs à aller découvrir. J'en connais pas beaucoup. Dans ce que tu as cité. Tu
n'en connais pas beaucoup ?
Non, je connais Tribulation de Marie parce que je l'ai reçue dans le podcast et puis je l'ai déjà rencontrée au CSF d'ailleurs. Mais ouais. Ok, bon, des beaux moments d'inspiration à venir alors.
Ouais.
Super. Si je suis créateur, un petit créateur entre guillemets, soit comme tu disais effectivement, où je vais vendre des choses pour que soi-même on puisse créer à partir de mes produits. Soit parce que je suis créateur de faits main, d'objets faits main. Est-ce que je peux exposer sur un salon comme CSF ou c'est trop gros, c'est pas un budget pour des petits créateurs entre guillemets?
C'est pour tous les budgets. La moyenne du stand, elle a pas mal baissé parce que justement notre souhait c'est vraiment de pouvoir ouvrir beaucoup plus à des petits créateurs, comme tu dis.
D'accord.
Il y a des petites pépites que le visiteur va découvrir en visitant le salon. Et je dirais que c'est même plus la place d'un salon comme Création et Savoir-Faire de présenter des petits créateurs, même si c'est aussi d'être une vitrine pour des grosses boîtes, mais on a un rôle à jouer là-dessus. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tu as raison, hein, le prix pour exposer était très élevé. Donc là, on a créé des tarifs artisans créateurs pour le politique ou pour le village créateur avec des surfaces qu'on a baissées. Avant, c'était 6 mètres carrés minimum. Maintenant, on peut avoir des espaces à 4 mètres carrés. Donc, on travaille vraiment là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir du salon. Et non, au contraire, oui. On a le tarif découverte. Donc, découverte, c'est la première année.
D'accord.
Et après, on accompagne. On a un tarif découverte 2. Donc, quelqu'un qui vient exposer une première année ne va pas passer du tarif découverte au tarif super cher, entre guillemets, du jour au lendemain.
Oui, d'accord.
On accompagne progressivement. Et notre souhait le plus cher, c'est qu'une découverte puisse, au bout de 2 ans, dire « Bon, je prends un 10 mètres carrés, stand équipé, tout va bien. » Et c'est aussi ça. Hein, c'est que c'est pour les gens qui veulent en faire un métier, c'est de pouvoir réussir, développer. Et ça se voit aussi au travers de la taille des stands qu'ils prennent. Ça, c'est hyper satisfaisant.
C'est clair.
T'as une boîte qui se lance au salon et qui, 2 ans après, prend hein, 20 mètres carrés. C'est génial.
Ouais, d'accord. OK. Bon, donc, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce milieu, en fait, tu loues un stand à l'intérieur donc de la superficie qui est vendue. Et après, c'est soit un stand nu, soit un stand équipé. Donc, le stand nu, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il y a une moquette et c'est tout.
Et le stand... Je ne vends pas de stand nu, moi, j'ai
d'accord.
pour des cloisons. C'est classique, où ça, il y a plusieurs tarifs. Il y a un tarif super équipé où il y a tout et il y a un tarif un peu moins équipé.
D'accord.
Et même avec un peu moins équipé, tu as l'éclairage et des cloisons et tu peux t'installer. Hein,
d'accord. Ok. Et puis, donc voilà, le stand plus équipé où là, effectivement, bah, il y a tout qui est prévu, l'éclairage, l'électricité. La tendance DIY de cette année ou de ces derniers mois ou de ces prochains mois, pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme nouveauté sur le salon ?
Je pense que l'aspect éco-responsabilité prédomine. Et ce n'est pas que dans une activité, c'est un art de vivre, c'est dans la façon d'appréhender. Le DIY, intrinsèquement, c'est ça. C'est la réutilisation, c'est le zéro déchet, c'est le fait main. Enfin, il y a vraiment cet aspect éco-responsable qui, à mon avis, est de plus en plus fort. D'ailleurs, on a créé ce petit pôle éthique avec un atelier central où tu as des gens, je ne sais pas si tu vois, Cousu Bio, Isop, The Comptoir, Big Bad Yarns, Camélire, Maison Septembre, tout ça, voilà. Qui ont tous une façon de travailler, ils suivent une charte. Alors, ce n'est pas la charte GOTS qui est une charte, je ne sais pas si tu connais, qui est très, très stricte. Mmh. Il y en a qui sont certifiés GOTS, hein. Mais nous, sur CSF, on ne voulait pas aller trop fort non plus. Donc, on démarre ce pôle. Mon souhait, c'est qu'il se développe, mais ça fait complètement sens. On est de plus en plus RSE, comme on dit. Nous, sur le salon, moi, j'ai banni la moquette. Hein. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment des combats. Et quand tu vois les dizaines de milliers de mètres carrés de moquettes qui sont ensuite, tu vois comment elle fait la moquette de salon, enfin, c'est quand même bien, bien plein de pétrole, et qui sont ensuite pas réutilisés, jetés et
polluants,
ça sert à rien. Donc, je préfère mettre le budget sur d'autres choses, sur animer la communauté à l'année, sur plus d'ateliers, sur un salon décoré sympa, mais voilà, la moquette, ça, c'est un choix. Alors, on l'expliquera à l'entrée, je pense qu'il y aura sans doute des gens qui vont dire « Ah là là, c'est horrible et tout ». Oui, peut-être.
Mais parce que du coup, c'est le sol brut ?
Oui, c'est le sol brut.
D'accord.
Je le faisais déjà sur aiguë en fait pour les expos. Pardon, excuse-moi, mais j'avais juste un... je le faisais et ça passait très bien. Après, il faut à nous d'amener la magie ailleurs que par le sol brut, tu vois ?
Oui, d'autant que c'est pas... Si tu réchauffes l'intérieur
voilà, exactement,
d'une autre manière...
Après, l'année dernière, il y a deux ans, on avait tout un espace avec Emmaüs, là, qu'on n'a pas cette année, parce que pour raison Covid, ça a été compliqué pour eux de s'organiser. Mais le côté je réutilise, ce qu'on appelle upcycling, mais c'est vraiment ça, c'est la réutilisation de redonner vie à des objets en les peignant, les bricolant. Ça, c'est des choses qui sont très fortes sur le DIY. Et comme là, dans cette période de confinement, on a dû faire avec ce qu'on avait à la maison. Bah, c'était typiquement le genre de choses. Il n'y a jamais autant de gens qui ont redécoré leur maison ou leur appart avec ce qu'ils avaient et ils réutilisaient, ils retransformaient. Donc ça, je pense que l'aspect éthique et DIY éco-responsable est important. On va le développer aussi sur l'aiguille en fait avec un espace qui s'appelle la parenthèse. Pareil, avec des ateliers, tout ce qui est art floral, tout ce qui est végétal, on utilise de plus en plus du naturel, on fait ses produits d'entretien soi-même, on fait ses produits de beauté soi-même, ça choque plus. Quand tu vois les rayons de supermarché pleins de vinaigre blanc et de bicarbonate voilà, tu te dis, bon,
tu fais quand même
tes produits d'entretien. Donc, il y a cette notion quand même, la vente en vrac sur plein d'aspects. Voilà, donc ça, je pense que ça prédominera. Les nouveautés, on a refait notre défilé de mode avec Artesane. Donc ça, je suis ravie parce que c'est pas un défilé de mode classique, hein. C'est des couturières qui portent leur réalisation et qui, pour certaines, débutaient. Hein. Donc ça donne des tenues. Enfin, c'était vraiment super. On l'a fait l'année dernière à l'arrache.
Il y a deux ans, tu
encore
veux dire
plus que maintenant. il y a deux ans, pardon. Oui, si tu vois. Et là, on le refait de façon un peu plus scénographiée. Et on aura aussi avec Artesane un live, une scène, en fait, un talk show permanent pendant les 5 jours du salon. Donc ça, c'est des grandes nouveautés qui sera online aussi pendant, pendant le salon où on va pouvoir... Enfin, moi, j'interviendrai, mais il y a aussi les exposants, des créateurs de l'inspiration. Il y aura peut-être des masterclass aussi.
Bon, bah c'est chouette.
Donc ça, c'est un côté digital, tu vois. C'est le lien entre le physique et le digital.
Ouais. Et des masterclass sur quoi ?
J'ai pas encore leur programme.
D'accord.
Je pense qu'ils feront intervenir certains de leurs profs.
Oui, d'accord.
Et puis des exposants, mais je n'ai pas encore tout le programme.
D'accord, parce que Artesane, c'est quand même effectivement un gros partenaire. Enfin, et typiquement une des boîtes qui grossit bien et que tu...
Ouais. Zan, je me souviens encore des petits stands de 12 mètres carrés.
Ouais.
Et au tout démarrage de l'entreprise Ansara, je me souviens très, très bien. Et c'est vrai qu'ils ont développé par trois leur communauté pendant le... Multiplié par trois leur communauté pendant le...
Pendant le confinement.
Bon. Donc, c'est vrai que c'est un...
Une belle réussite. Enfin,
c'est une belle réussite. C'est une belle réussite et qui apporte aussi pas mal aux pros, hein. Enfin, aux gens qui veulent devenir ou qui veulent créer leur boîte de plus en plus. D'ailleurs, ils auront un petit espace sur leur stand, en plus de l'espace défilé, pour justement que du B2B.
D'accord.
Pour répondre aux demandes de créatrices ou même de sociétés déjà établies sur des questions, ça va, du marketing digital. Enfin, c'est voilà. Je pense que voilà, c'est leur volonté aussi de développer le B2B.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est chouette. Et justement, il y a 2 ans, Artisan avait enregistré des épisodes de leur podcast directement sur le stand, sur leur stand.
Oui, ils l'ont fait chaque année.
Cabine.
Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ils l'ont fait chaque année, mais l'année dernière, parce que j'avais participé, si tu l'avais écouté, oui. Mais j'avais fait un podcast avec eux.
Ouais.
Et j'étais surprise de la qualité du son. Hein. C'était pas... On entendait très bien. Enfin, je m'attendais à un truc inaudible et j'avais trouvé
bien
ça plutôt. Mais bon, c'était sur place, donc t'as le bruit derrière.
Oui, il y a quand même un peu le brouhaha, mais effectivement, oui, c'était audible. Oui, moi, j'en ai écouté quelques-uns. Oui. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes de choses un peu improbables, des petites histoires dans toutes ces années de salon, que ce soit sur le CSF, sur Aiguille en Fête, voilà, des choses un peu qui t'ont marqué?
J'en ai plein, j'aurais dû préparer. Toi, pour vous dire, j'ai pas préparé ça.
Sinon, je te repose la question dans 5 minutes.
On organise le championnat de France de vitesse de tricot.
Lui, en fait.
Le speed knitting.
Ok.
Et on a fait ça parce qu'en 2000, c'est en 2006, je pense. Quelque chose comme ça, donc il y a un petit moment. Et on a fait ça parce qu'on voyait qu'il y avait des épreuves qui se déroulaient dans le monde de vitesse de tricot. Un truc de fou.
Et avec les yeux bandés, en plus, non?
Non, même pas. Bah non, parce que c'est une vitesse. Ou elle ne regarde pas tellement.
Bah oui, c'est ça.
Et donc, on se dit, bah super, on va faire ça. On va organiser une épreuve sur le salon. On organise, on dit, voilà, le salon Aiguille en fait propose la première épreuve France, le premier championnat de France de vitesse de tricot. On a Fildar comme partenaire, on avait mis des grosses aiguilles avec une laine qui n'était pas une vraie laine, enfin bon, on se débrouille. Et là arrive la grande championne de Hollande. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Elle arrive, elle a son petit sac avec... elle se met de la poudre sur les mains comme les grandes gymnastes.
Oui, oui.
Et là, elle arrive et elle voit nos aiguilles et notre fil et elle refuse. Elle dit, ce n'est pas réglementaire. J'étais, ah, parce qu'il y avait un règlement. Et donc, on s'est aperçu, en effet, qu'il fallait avoir des aiguilles numéro 3, du fil d'une certaine... Alors, on a tout changé, branle-bas de combat pour que la grande star puisse compétir.
Au dernier moment, du coup, comme ça.
Au dernier moment, on est allé voler chez les partenaires. Genre, donnez-nous ça, on veut des aiguilles, tout. Et donc là, ça a été génial parce qu'elle était là, donc elle tricote à une vitesse, c'est impressionnant, elle est dans le Guinness Book des records.
Okay.
Et donc, chaque année, bah, on a joué le jeu. On a créé une scène comme un ring de boxe, avec un règlement mais super précis, avec le numéro d'aiguille, le nombre de minutes et tout, pas du tout à la va que je te pousse comme on l'avait fait. Et chaque année, on a plus de 500, 400, 500 compétiteurs.
Sérieux ? C'est énorme.
Et c'est notre championne, la championne de France, c'est toujours la même depuis 10 ans. On n'a jamais été battue. Je peux te dire que ça, chaque année, ça vient, c'est le dimanche, c'est le dernier jour, on est tous là, allez et tout. Catherine Bouénard, indétrônable. Donc ça, c'est des. Et on a organisé des épreuves pour les hommes, donc on est des épreuves familiales, donc il y avait plein de catégories différentes, on a fait gagner des coupes, enfin, c'était chaque année, on réinventait la compétition, c'était très drôle, mais toujours avec ce règlement très sérieux.
On rigole pas avec le tricot. D'accord, bon, bah, c'est chouette. Je me disais aussi, si moi-même je veux proposer un atelier au CSF, comment je peux faire ? C'est possible ou pas ?
Complètement. On ouvre les propositions, on envoie en général, il faut être attentif à nos réseaux.
D'accord.
Et en général, on lance les appels à candidature, comme on appelle ça, au mois d'avril.
D'accord.
Avril-mai, pareil, c'est très en fonction du nombre de box et du type de box qu'on veut présenter.
D'accord.
Il y a quand même un... On regarde le type d'atelier, l'historique de la personne, etc.
Bien
donc
sûr.
On check quand même.
Oui, oui.
Il y a un petit cahier des charges à remplir. Et puis voilà, si ça correspond à nos besoins, là, tu vois, on a... je voulais absolument des box plus végétales. J'ai une box éco-responsable, justement, qui va dans le sens de ce que je te disais. Donc, plein d'ateliers autour de l'éco-responsabilité. Bon, bah, dans ces cas-là, on fait ces appels à candidature, on les lance là-dessus et on sélectionne en fonction.
D'accord.
Et ceux qui marchent le mieux, c'est couture, broderie. Donc, ceux-là, c'est assez vite plein. Et très vite, on a les profs qu'il faut, mais en éco-responsable, on a trouvé des trucs trop, trop bien. Ouais, je suis contente.
Bon.
Donc voilà, à partir du mois de mai, appel à candidature, à partir du mois de mai, tout le monde peut donner des cours. Et alors, en fait, c'est des cours qui sont payants, il faut savoir, pour
ouais.
les visiteurs, entre 5, 10, 15, enfin, c'est 5 euros de la demi-heure en général, sauf quand il y a des grandes stars, mais voilà. Et il y a un pourcentage de l'atelier qui va à l'organisation et l'autre pourcentage, c'est 40-60, je crois que c'est 60 pour le créateur et 40% pour l'organisateur.
D'accord.
Parce que toute la gestion des plannings, c'est nous.
Oui, et puis la mise à disposition de l'endroit.
Voilà.
D'accord.
Donc, il faut s'en servir comme d'un petit événement promotionnel.
Ok, bah, génial. Donc, on disait tout à l'heure, bah, le salon, c'est l'occasion de préparer Noël. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année ? Donc, évidemment, on va pouvoir, j'imagine, préparer notre calendrier de l'Avent.
Oui, d'ailleurs, la date a été... J'avais cherché à avancer la date parce que l'année dernière, il y a 2 ans, nous étions à la fin du mois de novembre.
Oui.
Début décembre.
Oui, c'était un peu trop tard.
Le calendrier de l'avance était raté.
Oui.
Donc là, je voulais qu'on revienne aux dates qui sont d'ailleurs des dates. Mais comme il y a beaucoup de travaux à la Porte de Versailles, des dates qui permettent un peu plus de temps pour préparer le mois de décembre. Après, les calendriers de l'Avent, on en trouve dans tous les stands quasiment, que ce soit textile, papier, chocolat. Donc, c'est vrai que c'est un moyen c'est un moyen d'exercer sa créativité qui est...
C'est un peu le rendez-vous, quoi,
le
moment sympa de l'année. Ouais.
Après,
ouais.
On va pouvoir faire ses couronnes de Noël, on va pouvoir... Donc, les couronnes, bah, c'est très créatif, t'en as plein, ça va être beaucoup de fleurs séchées, des couronnes qui ne sont pas forcément végétales. Donc ça, la couronne de Noël, c'est toujours un must-have. On va avoir des bougies à faire soi-même, on va avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre pour décorer sa table? Je pense qu'on va avoir des petits... des suggestions pour faire des belles tables de Noël.
D'accord.
La gravure sur verre pour personnaliser petits verres avec Dremel. Donc on a tellement, je te dis pas, mais c'est vrai que on a un box qui est dédié à ça, enfin, c'est-à-dire qui est vraiment
oui, c'est vraiment un des gros sujets du
un
salon.
Un gros sujet, voilà.
Ouais, ouais.
On rentre dans le salon, donc on sera accueilli par une ambiance un peu sapin, petite scénette à l'entrée, un peu sapin guirlande. Et puis c'est vrai que les exposants aiment bien décorer leur stand dans cet esprit-là, c'est l'univers qu'ils mettent en avant, c'est leur collection de Noël. C'est le mois de décembre, c'est le mois le plus important pour le commerce en France et dans le monde. Donc, en général, ils mettent le paquet.
Ouais.
Donc ça, c'est sympa aussi, c'est que sur création et savoir-faire, les exposants, pour la plupart, jouent le jeu et proposent des rivalises
d'imagination.
Sachant que je pense que le must ira sur le stand de Marie-Claire Idée qui est toujours très, très, voilà, cosy, très Noël.
Oui, oui, oui. Et à chaque fois, des belles boules de Noël, et à chaque fois, on rentre en disant, ouais. Ah, il faut que je fasse les mêmes.
Exactement. Et là, c'est tout. En fait, ils mettent tous leurs magazines, en vrai, sur un stand, avec les ateliers derrière. Donc, ça va être sympa.
Bon, et écoute, génial. Et alors, tu ne nous as pas dit, est-ce que toi, tu fais des loisirs créatifs aussi ?
Moi, je sais tout faire, mais j'ai le temps de rien faire. Moi, j'ai une maman couturière, une grand-mère couturière... tricoteuse, j'ai baigné là-dedans, donc c'est pas...
Il n'y a pas de hasard.
C'est pas un hasard si j'adore ces activités-là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je jardine. C'est la seule activité que je fais, c'est je jardine. J'ai essayé tout, j'ai tout fait, mais j'ai un problème de temps et de... C'est vrai que c'est... Voilà, je l'ai fait quand j'étais enceinte, j'avais un peu plus de temps. Et moi, je vais être plutôt vers... Alors, celle que j'ai le temps de faire plus, c'est vrai que c'est le bricolage et le jardinage.
Ouais, d'accord.
C'est du DIY, hein, mais c'est plus ça.
Ça reste avec les mains.
Ça reste avec les mains. Et là, j'ai envie de... C'est mon nouveau truc, ça, si j'ai très envie d'apprendre la vannerie.
Ah, oui.
Je trouve qu'il y a des trucs qui se développent, là, des créateurs qui proposent des ateliers. Alors, on en aura sur aiguille, en fait. parce que c'est plus quelque chose d'été, puis ça permet de faire, tu sais, tu fais TA et tout. Mais ça, je vais absolument l'apprendre. Et j'espère qu'on en aura sur aiguille. En fait, là, cette année, je ne crois pas qu'on a de bannerie sur le salon, malheureusement. Et ça se développe, ouais, de plus en plus.
Bon.
Mais je suis, ouais, non, j'ai tout essayé, mais je ne suis pas poursuivie parce que je n'avais pas le temps, en fait.
Ouais.
Il faut faire que ça.
On rêverait tous, hein, toutes, je pense, de faire que ça et de dire... Allez,
ça a sauté une génération parce que ma fille, j'ai deux filles et j'en ai une des deux qui sont le plus beau cadeau à 10 ans, 12 ans, c'était une machine à coudre. Donc, je me dis, bon, au moins, elle fera plus que moi.
Ouais, ouais. Après, il faut que ça perdure dans le temps parce que si justement, dans toutes les créatrices que j'ai eues sur le podcast, bah, souvent, elles ont, comme tu dis, elles ont baigné dedans pendant leur enfance. Et puis finalement, elles se sont dirigées vers d'autres études, enfin donc des études qui n'ont rien à voir.
Dessin manuel, ouais.
Voilà. Et en fait, bah, elles ne dessinent plus, elles ne peignent plus, etc. pendant un certain nombre d'années. Et puis après, en fait, ça revient pour plein de raisons. Mais effectivement, les naissances, typiquement, ça fait partie. Oui. Naissance, mariage, ouais. Voilà. Ça fait partie des moments où on se remet petit peu dedans.
On s'y remet et avec plaisir. Et puis, on découvre que maintenant, on a des modèles. Bah, par rapport à quand moi, j'étais jeune, dire que niveau créativité, c'était dingo. Hein. Là, il y a quand même des patrons ravissants. Les matières ont changé. C'est vraiment c'est beaucoup plus inspirant que ça ne pouvait l'être. Hein.
Et puis, c'est très accessible parce qu'on a quand même, entre bon, Internet plus les magasins loisirs créatifs qui sont quand même assez présents. Évidemment, tout dépend de la région dans laquelle on habite, mais on a quand même un assortiment assez, assez important et accessible facilement. Est-ce qu'on prend aussi peut-être un peu plus le temps aussi ? Parce que finalement, tu vois, on voit le bienfait que ça nous apporte de dire bah, « je peux décompresser quand je suis en train de coudre, quand je suis, moi pour le coup, faire de la carterie. On ne pense plus en fait aux soucis quotidiens. » On est déconnecté un petit peu de tout ça.
Donc, c'est de notoriété publique. Quand tu vois, tu entends des mots comme la trichothérapie, oui. Maintenant on en parle et c'est plus une honte.
Oui.
Il y a quand même eu toute une période où quand tu faisais des travaux d'aiguille, je fais ça vaguement moi-même, tu ne le disais pas trop. Là, c'est tout l'inverse, c'est tu revendiques. Et, ouais. Et c'est ça aussi qui change les donnes. Il y a des années, on a organisé la journée mondiale du tricot que je relayais. La journée mondiale du tricot en plein air, c'est ton coming out tricot. Quoi. Tu assumes le fait que tu tricotes et tu te fous à la terrasse d'un café et tu tricotes. Et c'est vraiment ça. Maintenant, on l'assume et c'est comme une position. Quoi. On la revendique.
Ouais.
Il n'y a plus ces côtés... chichi pompon, non, ouvrage de dame, c'est que pour les dames d'un certain âge. Ça a complètement changé. Complètement. Ouais. Ça, bah, c'est vrai que je l'ai vu sur 25 ans évoluer. Attends, avant 2002, il n'y avait pas de tricot. Hein.
Ah ouais.
Il n'y avait pas de tricot dans les salons. Hein. Le premier nid de café qu'on a fait, c'était en 2005 avec Fildar et c'était la seule marque. Et là, ça a explosé parce que nouveau modèle, nouvelle matière et puis ce côté, on assume, venu des anglo-saxons.
Mais et puis les réseaux sociaux ont dû avoir un rôle quand même dans tout ça parce qu'en fait
Internet a beaucoup apporté. Ouais,
ouais on voit enfin toutes les 5 minutes, enfin c'est sans fin en fait le nombre de créatrices qui existent et puis finalement elles peuvent être n'importe où dans le monde à partir du moment où on comprend à peu près l'anglais et puis même c'est très visuel finalement n'importe quelle nationalité de créatrice peut nous permettre quand même de s'inspirer. Ouais, donc
c'est génial pour ça, on a accès à tout. Non, ça a complètement ouvert le champ des possibles, hein, ça, c'est sûr.
Bon, donc on est plus que jamais, on a tout dans les mains pour faire des loisirs créatifs. Et puis, donc, on va pouvoir venir se régaler au CSF cette année. Donc, c'est du 17 au 21. Il y a une nocturne le jeudi soir.
De 17h à 21h. On peut venir plus tôt si vous arrivez à 17h. C'est déjà les tarifs de la nocturne qui sont moitié moins chers. On a baissé les tarifs cette année aussi, hein, de 2 euros sur l'ensemble de la billetterie.
D'accord.
Bah, avec la situation, enfin voilà, on est sur des tarifs qui datent de 2013. On est sur les entrées sont quand même beaucoup, beaucoup moins chères. Bon, ça fait partie des. Pareil, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Hein, il s'est quand même passé un an et demi.
Plein de choses, ouais. Et les visiteurs et visiteuses, alors j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de visiteuses.
Bon, tu peux dire 99,9%. Je pense qu'on n'est pas loin du compte.
Beaucoup d'enfants aussi, les enfants qui viennent avec les mamans.
Écoute, quand on a ouvert le mercredi, on s'est dit que ça va être un raz-de-marée avec les enfants, mais alors pas du tout en fait. Hein.
Ouais. Non, parce que tu n'as pas envie d'être embêté par les enfants.
Bébé poussette, ok. Oui. Parce qu'ils ne viennent pas t'embêter pour aller à un stand, machin.
Ouais.
Au-delà, plutôt le week-end, et c'est plutôt les grands-parents qui s'y collent. Hein. C'est la grand-mère. Hein. Parce que la maman, en fait, elle vient avec des amis. Enfin, c'est plus un endroit où on se retrouve entre amis ou entre personnes de la même...
autour du même loisir, voilà, c'est ça.
Et l'enfant, il n'a pas toujours sa place, non. Alors après, quand elles sont plus grandes, les petites filles ou les petits garçons, hein, moi je faisais venir des classes avec des garçons aussi bien que des filles qui se mettaient à la broderie et au tricot, mais c'est au bout d'un moment, elles demandent. Elles disent « Ah ben non, j'aime bien et tout ». Donc là, bon, bah, on peut partager, mais ce n'est pas autant qu'on peut penser.
Oui, oui, oui.
Par contre, elles font pour les enfants, beaucoup, ça oui.
Ah ouais, ça c'est clair, ouais.
Non, non, ça c'est sûr que c'est génial parce que c'est une source d'inspiration des enfants.
Oui, oui. Alors, pour les vêtements, c'est un peu pénible parce que ça grandit, les enfants. Donc, oui. Il faut...
Alors, quand tu t'es embêté à faire une robe, t'as sué et qu'au bout de 2 mois, ça va plus, c'est vrai que c'est un peu frustrant.
Bon, ça, moi, je me suis plutôt concentrée sur les accessoires. Ça reste un peu plus dans le temps.
Voilà, qui ne bouge pas.
Ok. Et puis alors, il y a beaucoup de personnes de la région parisienne, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui viennent un peu de loin, de partout en France ?
En général, on est sur du 60-65% Paris, région parisienne.
D'accord.
Bon. Je pense que là, oui. Il y aura... Mais bon, j'ai des visiteuses qui me disent qu'ils viennent de Montpellier. Mais bon, ça sera vraiment des... Je pense qu'on aura moins, tu as raison, de gens de région qu'on a pu avoir en proportion. C'est ce qui est logique, enfin, j'imagine. Franchement, je ne sais pas comment les gens vont. C'est vraiment une inconnue. Hein. On est, alors, on a des préventes. Les préventes se passent bien, donc ça nous permet de nous dire, bon, il y aura quand même du monde. De savoir d'où ils viennent. Franchement, je ne sais pas. Au niveau sanitaire, là, ce n'est plus un sujet. Le pass sanitaire règle tous les soucis, mais j'ai quand même des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils n'ont pas de pass. Hein.
Ah oui, ça aussi, oui.
Tu vois, il y a quand même des exposants qui ne veulent pas exposer parce qu'ils sont contre le pass. Donc, bon.
Ah ouais. Bon.
Dit, c'est une petite... C'est une petite représentation de la
de la France.
En 10 000 mètres carrés.
Ok, bon, bah, génial. Eh bien, écoute, moi, j'ai hâte de venir, en tout cas. Et
avec
puis, on se rencontrera à ce moment-là. Merci pour ce temps avec nous, avec moi et les auditrices du podcast, pour cette plongée dans les coulisses. On espère une belle édition. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà, vous avez bien travaillé pour une belle édition 2021 et puis une édition 2022 encore plus grandiose, peut-être. Voilà, toujours réinventée. Voilà, moi, je trouve ça vraiment chouette de dire, on se repose pas sur les lauriers et on fait un truc un peu nouveau. Enfin, on essaye de se réinventer un peu. Je trouve ça vraiment chouette et je suis contente de.
On a besoin de tout le monde pour ça. Ouais. C'est pour ça quand on envoie les questionnaires aux visiteurs, aux exposants, c'est pas uniquement, il y a un vrai intérêt derrière. C'est
pas juste pour des stats.
Pas dans les oubliettes simplement pour se donner bonne conscience. Hein. Je rassure tout le monde, c'est un vrai travail derrière.
Ok, bon, génial. Mais écoute, merci beaucoup, Vanessa. Le salon Porte de Versailles à Paris, hyper facile pour y accéder, même quand on vient de loin. Un petit coup de métro ou de je sais pas quoi d'ailleurs.
Ouais. Ah, Porte de Versailles, c'est simple.
Ouais, il y a même le tram qui passe devant. Hyper simple. Donc, du 17 au 21 novembre. Et puis, évidemment, sur Instagram aussi. Alors, si on ne peut pas venir, on peut suivre et se plonger dans les coulisses. Enfin, pas dans les coulisses, mais dans les allées du salon. Parce que du coup, vous êtes particulièrement actifs à ce moment-là sur Instagram.
Oui, oui. Et puis, il y a tous nos partenaires, tous les exposants. Tout le monde, il y en aura partout. Donc, ça va être top. Ouais. Et puis sur le site on mettra toutes les infos et puis vous pouvez venir au mois de mars sur Aiguille en Fête du 10 au 13 donc c'est une édition. L'Aiguille en Fête c'est évidemment plus textile mais il y a des expos et des ateliers magiques. C'est pas Noël, c'est sûr, c'est le printemps.
C'est
belle fête aussi.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup Vanessa pour tout ton temps et puis on se retrouve au CSF.
À bientôt, merci beaucoup.
Me revoici. J'espère que vous avez autant apprécié que moi d'en savoir un peu plus sur ce salon incontournable du Do It Yourself. Comme ça peut représenter un petit budget de se déplacer sur un salon parisien, j'en sais quelque chose, jeune Grenoble, pensez à en toucher deux mots dès aujourd'hui à votre Père Noël préféré pour un petit cadeau facile et un poil en avance. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les épisodes précédents. À chaque fois, je vous propose une conversation avec un ou une entrepreneuse créative qui a fait de sa passion son métier. Parmi les derniers échanges, Caro From Woodland, illustratrice, autrice et créatrice cosy. Du bout du doigt, créatrice de papeterie touchante. Les petites porcelaines, potières. Ou encore Ectomorphe, illustratrice et créatrice de contenu. Si vous êtes plutôt art du fil, j'en ai aussi plein à vous proposer. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement Podcast Féma. Et si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast, Apple Podcast par exemple, ou en me soutenant avec quelques euros sur Tipeee. Vous aurez toutes ces informations sur mon site internet. En parlant de site internet, n'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site, c'est podcastfaitmain.fr, pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, comme ça vous serez sûr de ne pas en louper. À très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt!